Radio Prague, les informations. Bonjour, élection présidentielle. Le père du candidat Jan Švejnár avait signé un accord de collaboration avec la police politique communiste. La Bohême du Sud refuse de déplacer la porcherie à Letty sur le site d'un ancien camp d'internement de Rome pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et enfin, Alain Delon est à Prague pour l'élection de la Miss Tchèque. Jan Švejnár, candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra vendredi 8 février prochain au château de Prague, a annoncé vendredi sur son site internet que son père, Zdeněk, avait signé un accord de collaboration avec le ministère tchécoslovaque de l'Intérieur en 1961 lorsqu'il était employé à l'Institut économique de l'Académie des sciences tchécoslovaques. Cet accord a été signé en vue de la participation de Zdeněk Švejnár à une conférence internationale de l'ONU. Dans le dossier, il est constaté qu'étant donné que Zdeněk Švejnár n'a finalement pas été envoyé à l'étranger, le contact avec lui a été interrompu en 1962. Jan Švejnár a déclaré qu'il avait décidé de rendre public le dossier de son père avant d'empêcher une éventuelle discréditation de sa personne avec des documents relatifs au passé de sa famille. Jan Švejnár a reçu le dossier des archives des services de sécurité du ministère de l'Intérieur. La région de Bohême du Sud a indiqué vendredi qu'elle refusait de déplacer la porcherie industrielle qui se trouve depuis les années 1970 dans la commune de Letty à l'emplacement de l'ancien camp où étaient internés les Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale et le protectorat de Bohême-Moravie. Jeudi, le Parlement européen a appelé la République tchèque à supprimer les bâtiments d'engraissement de porcs. La région de Bohême du Sud entend, elle, construire un monument à la mémoire des victimes de l'Holocauste Rome, mais estime que le déplacement de la porcherie où sont élevés environ 13 000 porcs est une solution inadéquate. Václav Havel se sent bien et devrait quitter l'hôpital pragois où il se trouve depuis près de 2 semaines dans les jours à venir. Initialement, sa sortie avait été évoquée pour vendredi ou ce samedi. L'ancien président tchèque souffrait d'une bronchite et d'arythmie cardiaque. Selon le directeur de l'hôpital, le rythme cardiaque de Václav Havel s'est stabilisé et les médecins ont également constaté une amélioration au niveau des bronches. Les médecins préparent un rapport officiel complet sur son état de santé qui sera communiqué lors de la sortie d'hôpital de Václav Havel. Alain Delon est à Prague depuis vendredi. Samedi soir, il participe à la cérémonie de l'élection de la Miss Tchèque 2008. L'acteur français est le président du jury et en tant que tel, c'est lui qui remet la couronne à la nouvelle Miss. Alain Delon, que le public tchèque peut de nouveau voir à l'écran en ce moment, à l'occasion de la sortie du film Astérix et les Jeux Olympiques, n'était plus venu à Prague depuis 1999. En tennis, la République tchèque et la Slovaquie sont à égalité un point partout à l'issue de la première journée de la rencontre comptant pour le premier tour du groupe mondial 2 de la Fed Cup disputé à Brno en Moravie. Dans le premier match, la Slovaque Dominika Cibulková a battu la Tchèque Petra Tsetskovska en 2-7, tandis que dans le deuxième match, Nicole Vajdišová a remis les deux équipes à égalité en s'imposant contre Magdalena Rybaríková. Enfin, on termine avec un mot de météo. Après plusieurs journées marquées par la grisaille, le soleil fait un retour remarqué malgré quelques passages nuageux dimanche, jour de la fête des Blageilles. Les températures se situent entre moins 8 et moins 4 degrés pour les minimales et entre 1 et 5 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter, Guillaume Nargue.
Rencontre littéraire, Václav Richter.
La forêt, la vénérie et l'histoire, voilà les trois grands amours de l'écrivain František Bezděk. Il a consacré plusieurs livres à ces thèmes qui ne cessent de le passionner. Dans ses livres, il a retracé l'histoire de la chasse et a cherché à redorer le blason des métiers de la forêt, notamment de celui des gardes-chasse, dont il a évoqué les glorieuses traditions. En retraçant l'histoire de la chasse en Bohême, il n'a pas pu oublier le comte František Antonín Špork, personnage incontournable ayant laissé une profonde empreinte dans la vie et la culture tchèque de l'âge baroque.
Thank you.
C'est Saint-Hubert qui est le patron des chasseurs. Dans le passé, les gentilshommes qui aimaient la chasse entraient dans l'ordre de Saint-Hubert, ordre qui se situait à mi-chemin entre chevalerie et vénérie. L'ordre a existé et existe de nouveau en Bohême, et František Bezděk est sa mémoire vivante.
V roce 92 jsem se stal archivářem obnovovaného loveckého řádu svatého Huberta.
En 1992, je suis devenu archiviste de l'ordre de Saint-Hubert qui renaissait de ses cendres. En juillet de la même année, l'ordre a été enregistré en tant que continuateur de l'ordre qui avait été fondé par le comte Spork. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pratiquement pas d'informations sur ce personnage. Et je me suis lancé dans la recherche de documents. J'ai fouillé dans les archives, j'ai cherché des sources historiques. Et c'est à partir des documents réunis que j'ai écrit deux livres.
Le livre dont il est question s'appelle « František Antonín le Comte Spork et l'Ordre de Saint-Hubert » et « Histoire de la vie de son Excellence, le Comte Spork ». La vie de cet aristocrate, penseur, mécène d'art et réformateur est une suite d'événements qui ont marqué la vie en Bohême. Quand un historien étudie aujourd'hui les XVIIe et XVIIIe siècles, il ne peut pas omettre ce personnage d'un génie particulier, considéré à l'époque sans doute comme excentrique. Son influence s'est manifestée également dans les règles de la chasse. František Bezděk.
To hledání kořenů mysliveckých tradic, to byl můj sen takový, protože v každé dobré učebnici myslivosti se...
La recherche des racines de la chasse, c'était mon rêve. On apprend dans chaque bon manuel de cynégétique que le comte Spork a introduit en Bohême les traditions de la vénerie justement par la fondation de l'ordre de Saint-Hubert. Seuls les gentilshommes qui possédaient des domaines dans lesquels ils pratiquaient la chasse à court pouvaient devenir membres de l'ordre. Il existe même des documents écrits selon lesquels les gardes-chasses impériaux apprenaient dans le domaine du comte Spork, de Lissana de Labem, les principes de la vénerie qui étaient respectés à l'époque. Certaines de ces règles se sont conservées, mais nous ne les connaissons pas toutes, parce que le livre dans lequel elles étaient réunies a été perdu. Si quelque chose de ces principes est conservé et respecté encore aujourd'hui, ce sont les règles du traitement cultivé et respectueux du gibier qui vient d'être chassé. La chasse n'est pas que le fait de fusiller un animal. En rendant hommage à l'animal tué, nous faisons les adieux au nom de cet animal à la nature dans laquelle il a vécu.
Qui était donc ce comte Spork dont le nom revient toujours dans les écrits de František Bezděk, ce descendant d'une famille ayant profité de la bataille de la Montagne Blanche en 1620 et de la défaite de la noblesse tchèque, est né en 1662. Après des études dans un collège jésuite et ensuite à l'université de Prague, il fait un long voyage à travers l'Europe qui sera pour lui la source de connaissances et d'inspiration. En France, il étudie la philosophie de son époque et devient un grand admirateur de l'œuvre de philosophe et mathématicien Blaise Pascal. De retour au pays, il assume d'importantes fonctions officielles. Il est nommé gouverneur du pays, puis conseiller secret, mais il s'impose de plus en plus aussi comme mécène d'art et vulgarisateur de la philosophie rationaliste qu'il désire appliquer dans la vie. Il publie dans son imprimerie des livres jugés hérétiques par les jésuites. Il fonde à Prague le premier théâtre d'opéra italien. Il fait construire dans son domaine de Coux un ensemble d'édifices baroques par lequel il met en pratique ses idées novatrices sur l'architecture, l'urbanisme, la culture et la vie. Pour réaliser ce projet monumental, il n'hésite pas à remodeler le paysage et s'adresse au sculpteur Matthias Bernard Braun et à l'architecte Giovanni Battista Aliprandi, artistes les plus importants de l'ère baroque en Bohême. Il cherche également à cultiver la vie et les mœurs de ses compatriotes et s'applique à l'érudition du peuple. Dans le cadre de ses nombreuses activités, il introduit en Bohême l'ordre de Saint-Hubert, qui lui permet de cultiver la règle de la vénerie, à l'époque le loisir préféré de la noblesse. Il est le premier à se lancer en Bohême dans l'élevage du gibier et à jeter les fondements de la cynégétique moderne en tant qu'activité bien organisée et pratiquée par un personnel instruit qui s'occupe également de la protection des animaux. František Bezděk ajoute que c'était également le comte Spork qui a fait connaître aux Tchèques le corps de chasse.
No, zas to má prsty hrabě Šporu, protože ten v roce 1682 ten lovecký roh.
Une fois de plus, c'est le comte Spork qui en est responsable, parce que c'est lui qui a amené en Bohême le corps de chasse en 1682. Je me suis mis à la recherche des documents sur l'histoire de l'introduction du corps de chasse chez nous, sur l'histoire de l'art de sonner le corps, sur l'histoire des fanfares qui existaient dans les châteaux et dont le corps était une partie inséparable. Je crois que chacun devrait vivre et sentir ce frisson, ce fourmillement le long de la colonne vertébrale qu'on ressent au moment où l'on entend sonner l'halali.
On peut dire donc que c'est le comte Spork qui a été initiateur de presque tout ce qui est positif dans les traditions de la vénerie et de la cynégétique tchèque, et que les amateurs de la forêt, mais aussi les animaux, lui sont bien redevables. Dans ses livres, František Bezděk a tâché de saisir au moins quelques aspects de ce personnage complexe et baroque dans le meilleur sens du mot. Aujourd'hui, il avoue cependant que ce qu'il y a d'important pour lui dans la chasse, ce n'est pas le fait de tuer un animal. Ce n'est pas ce qu'il cherche lorsqu'il met l'uniforme vert et entend déjà l'aboiement des chiens et l'appel du cor. Par cet aveu, il renie pratiquement la chasse classique qui permettait aux chasseurs de se nourrir et donne à cette activité une nouvelle dimension.
No, já každému říkám, že největší zážitek vždycky mám z toho kusu, který jsem neulovil.
J'ai toujours dit que la plus grande sensation que je puisse ressentir à la chasse est celle que me donne l'animal que je n'ai pas eu, que je n'ai pas tué. Ma plus grande sensation est donc celle de renoncer à tirer sur un grand cerf, bien que je sache qu'il passera peut-être aussitôt dans le domaine voisin où il périra d'une mort héroïque. Mais moi, je ne tirerai pas sur lui.
Je vous ai présenté l'écrivain František Bezděk et le comte František Antonín Spork. Cette émission vous a été proposée par Václav Richter. Merci également à Irena Viernochová, réalisation technique, et à David Rada, prise de son.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Pour ce nouveau numéro du Tchèque du bout de la langue, nous allons revenir à notre petite série consacrée au nom des chaînes de montagne. Lors de la première partie, il y a deux semaines de cela, nous avions ainsi découvert l'étymologie des appellations
Krkonoše,
mont des géants, et
Jizerské hory,
mont de Jizera, soit deux des sept principaux massifs recensés sur le territoire de la République tchèque, deux massifs situés l'un à côté de l'autre dans la région des Sudètes. Nous allons donc poursuivre, pour cette fois, le tour du pays en restant dans le nord-est de la Bohême, avec tout d'abord les
Orlické hory,
soit les monts Orlické.
Nad horama vyšla hvězda, jaká nikdy nesvítila, cože je to za znamení, cože je to za novina, cože je to za znamení, cože je to za novina.
Situé à quelques dizaines de kilomètres au sud-est des
Krkonoše,
les
Orlické hory,
qui forment une frontière naturelle avec la Pologne et dont le plus haut sommet,
Velká Deštná,
culmine à 1115 mètres, tire leur nom depuis seulement 1836 de la rivière
Orlice,
qui prend sa source sur les lieux. Il s'agit donc de la même origine et du même cas de figure que pour les
Jizerské hory,
que nous avions évoqué dans notre émission précédente, puisque leur appellation provient également d'une rivière, en l'occurrence la rivière
Jizera.
Pour ce qui est de
Orlice,
qui coule également en Pologne voisine, la rivière est en fait plus précisément formée de deux cours d'eau, que sont
Tichá orlice,
soit l'orlice silencieuse, et
divoká orlice,
l'orlice sauvage. Et l'appellation de ces deux rivières provient tout simplement du fait que des aigles,
orly,
se trouvaient sur leur cours supérieur. Ainsi donc,
orlice
est en quelque sorte la rivière des aigles, comme nous l'indique la racine du mot
orly.
Prošli hvězdní hudci pevniny moře, až doputovali k Javorové hoře. Tichem hvězdných dálek, nekonečným časem, zazněla jim hora tichým lidským hlasem.
Toujours un peu plus à l'est et toujours à proximité des
Krkonoše,
dans la région des Sudètes, mais cette fois en Moravie du Nord, ou si vous préférez, dans la partie tchèque de la Silésie, se trouve le quatrième massif qui nous intéresse, les
Jeseníky,
dont l'appellation possède des origines incertaines et pour le moins compliquées. Ce que l'on sait cependant de façon sûre, c'est que le nom du massif n'a rien en commun, comme on pourrait le penser, avec la ville de
Jeseník,
une petite ville qui ne porte d'ailleurs son nom tchèque que depuis peu, puisque jusqu'en 1947, on a parlé de
Frivaldov,
un nom qui provenait de l'allemand
Freiwald
ou
Freienwald,
ce qui signifiait littéralement la forêt libre. Une fois cela précisé, la question reste de savoir comment le nom de
Jeseníky
est apparu. En fait, il semble que ce soit un village qui ait joué un rôle dans cette apparition, un village qui n'existe cependant plus depuis la seconde moitié du XVe siècle, mais qui s'appelait alors
Gesenské,
une appellation qui proviendrait du mot allemand
Senken,
soit
snížit
en tchèque et abaisser en français. Ainsi donc,
Gesenské
était en quelque sorte un abaissement, ou plutôt une vallée, puisque le village se trouvait, comme cela est généralement le cas en montagne, dans une vallée. Ce dont nous sommes également certains aujourd'hui, c'est que le nom de
Gesenské
possède un rapport évident avec celui de
Jeseníky,
les deux appellations se ressemblant beaucoup. La seule différence est que tandis que
Gesenské
a une connotation allemande,
Jeseníky
en est l'équivalent tchèque. Reste maintenant à savoir laquelle de ces deux appellations est apparue en premier. En somme, les
Jeseníky
sont-elles la variante tchéquisée en quelque sorte de l'allemand
Gesenské,
ou est-ce le contraire? Telle est donc la question à laquelle les linguistes répondent avec beaucoup de prudence, même si généralement ils estiment que l'hypothèse la plus probable est celle qui veut que la vallée dans laquelle se trouvait le village de
Gesenské
s'appelait en fait déjà
Jeseník.
Il s'agissait alors à l'origine d'un nom qui avait été donné à ce que l'on pourrait traduire littéralement comme étant un ruisseau de frêne,
Jesení potok,
c'est-à-dire un ruisseau qui coule au milieu d'un peuplement de frênes, l'arbre se disant
Jasan
en tchèque.
Gesenské
proviendrait donc de
Jeseník,
nom de la vallée qui fut par conséquent également donné dans sa version germanisée à ce fameux village que nous avons évoqué précédemment. Et par la suite, progressivement, la vallée, puis l'ensemble du massif, prirent également le nom de
Gesenské,
avant de retrouver de nouveau leur version tchèque
Jeseníky.
Zní zvon, už tmí se kraj, a s ním tvůj syn šel spát.
Voilà, c'est donc avec un beau mal de tête que se referme ce tchèque du bout de la langue et la deuxième partie, un peu compliquée, admettons-le, de notre série consacrée aux origines des noms des chaînes de montagnes tchèques. En attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Courrier des auditeurs. Alexis Rosenzweig.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un agréable week-end et que vous passez de moments agréables en compagnie de Radio Prague à l'écoute du programme en français. C'est donc l'heure de retrouver une de vos émissions préférées, celle de votre courrier, une émission que l'on commence tout de suite avec les courriers électroniques, les mails reçus cette semaine. Et d'abord celui de Monsieur Pierre Robin qui nous a écrit de Marseille en France. et qui écrit « Bonjour, auditeurs et lecteurs de Radio Prague, j'aimerais avoir l'opinion des lecteurs. Je collectionne les timbres tchèques, Tchécoslovaquie 1919-1993 et République tchèque ensuite. Ma collection remonte à 1919, je la complète souvent par des échanges. J'essaie de communiquer ma passion à d'autres philatélistes, mais la question que nous nous posons, et j'aimerais avoir l'avis des philatélistes tchèques, doit-on dans cette collection inclure les timbres entre 1939 et 1945 de Bohème-Moravie ou faut-il ne rien mettre ? Merci, c'est donc signé Pierre Robin de Marseille en France. On va afficher cette lettre sur notre site internet et peut-être aurons-nous des réactions. En effet, la période 39-45 reste une période exceptionnelle dans l'histoire de la Tchécoslovaquie puisque c'est celle du protectorat de Bohème-Moravie sous l'autorité du Troisième Reich nazi. On continue avec un autre mail reçu de France. Il est signé Christian Kerruel. Bonsoir, j'ai lu avec attention votre article sur le déclin des mouettrieuses en République tchèque sur le site internet. J'ai plusieurs oiseaux originaires de ce pays qui passent l'hiver le long de la rivière Sarthe, au Mans, en France. Vous pouvez voir cela en images à l'adresse www.numeriscopage.com. Cliquez sur Carnet naturaliste sartois, puis sur la mouette dans la colonne de gauche. Une dizaine de pays sont concernés, dont la République tchèque. Merci à vous pour ce mail, Christian Kerruel. En effet, vous réagissez à l'article, c'était signé par Alain Silvinski, sur la mouettrieuse oiseau de l'année 2008 en République tchèque. Ensuite, une petite remarque qui nous vient d'un fidèle auditeur, Bruno Barande, et qui nous écrit « Cher Radio Prague, nous avons l'impression que malheureusement beaucoup de messages ne parviennent pas jusqu'à votre radio. Pouvez-vous nous en donner l'explication ? Recevez nos meilleurs et bien dévoués sentiments. » Et c'est signé les Barandovi, la famille Barande. Je vais vérifier tout de suite s'il y a un problème avec notre boîte email et en parler aux personnes responsables. En tout cas, ça va faire l'objet d'une vérification. Merci à vous. On fait une petite pause musicale et on se retrouve dans un instant. Avec un autre courriel qui nous vient d'un autre fidèle auditeur, il s'agit d'Anthony Lezer de Poitiers. Il nous écrit « La semaine dernière à Zagreb en Croatie avaient lieu les championnats d'Europe de patinage artistique, une compétition à l'issue de laquelle votre patineur tchèque Tomáš Werner a reçu la médaille d'or. Je tiens à vous féliciter pour ce champion de České Budějovice qui en outre parle et comprend un peu notre langue française. En effet, son programme long fut d'une très grande beauté et d'une immense complexité technique. Certes, je suis un peu déçu que mon voisin poitevin Brian Joubert n'accède qu'à la troisième place du podium, mais c'est la loi du sport. Bravo à Thomas et vivement les championnats du monde qui se dérouleront dans 2 mois. Amicalement, c'est donc signé Anthony Lezer de Poitiers. Merci beaucoup pour vos messages. Je continue avec un message d'Hervé Brien qui nous écrit toujours de Talence et nous écrit « Peu de temps pour vous écouter en ce moment, mais votre site internet et les bulletins d'information journaliers me permettent de continuer à vous suivre. J'ai profité de dimanche pour vous écouter à 17h30 et j'ai beaucoup apprécié la lecture de la recette des haricots verts à la crème avec jarret de bœuf. » À consommer avec modération. La réception était pratiquement parfaite. Je vous transmets ce deuxième rapport d'écoute de l'année et vous remercie par avance pour la nouvelle QSL de la série des sportives et sportifs tchèques. Je profite également de ce message et de l'écoute de votre dernière rubrique pour signaler à tous les auditeurs du sud-ouest de la France que la République tchèque sera représentée par l'Office national tchèque du tourisme sur le salon du tourisme qui se tiendra à Bordeaux les 1er, 2 et 3 février. Il nous donne une adresse internet aussi, le www.salonmahana.com, salonmahana, salonmahana.com. Sincère amitié radiophonique et tchécophile, Frédéric et Hervé Brien de Talence. Donc, on a reçu un email, mais sans nom, un email anonyme. et dans lequel on nous demande qui va représenter la République tchèque à l'Eurovision cette année, dont la grande finale de l'Eurovision, du grand concours de la chanson d'Eurovision, vous le savez, ce sera à Belgrade fin mai. Eh bien, la finale tchèque pour participer à cette finale de l'Eurovision a eu lieu la semaine dernière, et c'est la chanteuse Teresa Kandová qui a remporté cette finale nationale avec le titre Have Some Fun, et on écoute tout de suite un extrait. Voilà, c'était la chanteuse Teresa Kandová avec ce titre Have Some Fun qui va représenter la République tchèque à la finale du grand concours de la chanson de l'Eurovision cette année. Ce sera en Serbie, à Belgrade, fin mai. Et je termine cette émission en remerciant chaleureusement tous ceux qui nous ont envoyé des rapports d'écoute, dont Monsieur Didier Beaurepaire, Monsieur Maurice Perrin de Saint-Ouen en France, Monsieur Le Serre, Marcel, fidèle auditeur, merci beaucoup pour vos précieux rapports d'écoute. Merci à Madame Danielle Vermont de Bruxelles en Belgique. Merci également à Georges Lecomte qui nous a envoyé son rapport de réception par email, Jean-Marie Monplot de Chambéry évidemment, et Monsieur Jean-François Meil d'Ars-sur-Moselle en France. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de ce courrier. Je vous souhaite un très agréable week-end à l'écoute de Radio Prague. Merci à toutes et à tous de votre attention. À très bientôt.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9750 kHz, or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz, and at 1700 hours on 15710 kHz, and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 hours on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9890 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9890 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours UTC on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 135.